Bonjour, vous écoutez l'épisode 22 du podcast Les Petits Plus Zen, un podcast créé par Séverine Face. Je suis aide à la parentalité après avoir travaillé 20 ans en maternelle REP+. Aujourd'hui, je vais vous parler des règles de vie. Les règles de vie, c'est un grand sujet quand on devient maîtresse, quand on doit affronter le vécu d'un groupe classe, donc entre 22 et 30 élèves, qui, bien entendu, ont des besoins différents, ont des habitudes de classe différentes, et pour fédérer un peu autour de nous, en ayant l'intention d'installer des compétences scolaires en plus de la gestion du groupe. Donc, en classe, très vite, on comprend que l'idée, c'est à la fois de protéger la sécurité des membres en individuel et à la fois de faire avancer le groupe pour éviter le maximum de conflits, le maximum d'accidents, le maximum de temps perdu pour qu'on puisse aboutir au programme scolaire, aux compétences scolaires. Donc ça, c'est dans les textes, c'est facile à comprendre et on explique souvent aux enfants que c'est un peu comme dans la société, il y a un règlement, il y a des lois à suivre, comme les adultes, et on pense que ça peut s'arrêter là dans leur compréhension des règles de vie. Mais finalement, quand on est parent, on a un peu la même problématique. On aimerait bien que les enfants se conforment aux règles qu'on a décidées. On leur dit, bah, tu sais, moi aussi, hein, j'ai des règles, c'est comme ça, on ne choisit pas toujours. Et on pense qu'en leur expliquant juste que nous aussi, on a des règles, qu'il y a des règles à l'extérieur, ça fait sens dans leur esprit. Donc, je vais déjà vous inviter à vous référer, par exemple, à une loi, à une règle à laquelle vous pensez là tout de suite et à vous demander si cette loi, elle est vraiment réelle. Est-ce qu'il y a écrit quelque part ce texte-là? Est-ce qu'il est valable pour tous? Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce que quand on transgresse cette règle, il y a une conséquence? Est-ce que cette conséquence, elle est déjà écrite? Est-ce que c'est une conséquence pour celui qui dépasse la règle? Ou est-ce que c'est aussi une conséquence pour celui qui est victime de la règle qui a été dépassée? Et dans ces cas-là, on se rend compte qu'il y a certaines règles qui vont tenir le coup, hein, à l'épreuve de ces passoires-là, et il y a certaines règles qui n'ont pas tant de sens que ça. Parce que quand on prend l'exemple très classique du couloir dans une école, ou peut-être du couloir que vous avez dans le hall de votre immeuble ou dans votre maison, quand vous dites à votre enfant ou quand je dis à mes élèves « on ne court pas dans les couloirs », concrètement, cette règle, elle n'est pas écrite dans la loi. Elle n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas universelle. Il y a des couloirs où on court. Ils n'ont pas d'exemple comme quoi c'est impossible de courir puisque physiquement, leur corps peut très bien courir dans ce couloir. Donc, c'est arbitraire finalement de se dire on ne court pas dans un couloir. Quel sens ça a pour moi? Quelles conséquences ça a pour moi de se dire cette règle c'est on ne court pas dans un couloir? Donc si vous avez pris un autre exemple plus important, un exemple qui est vraiment dans la loi du genre on ne peut pas traverser quand le train, quand le passage à niveau est fermé et que la lumière clignote, là c'est sûr que matériellement, normalement vous ne pouvez pas traverser à la barrière à niveau parce que matériellement il y a quelque chose qui vous en empêche. Mais vous voyez, pour certaines règles, c'est beaucoup plus flou pour un enfant, ça ne se voit pas pour un enfant et surtout c'est difficilement compréhensible si on ne lui a pas expliqué, si on ne lui a pas verbalisé les conséquences de cette règle, le pourquoi de cette règle en fait. Et les conséquences de cette règle, elles peuvent vraiment être pour celui qui les dépasse, mais elles peuvent être aussi pour celui qui a subi les conséquences de cette règle. Donc une autre règle très connue qui est « on ne tape pas les autres enfants ». Bien entendu, toutes les maîtresses et tous les maîtres du monde ont expliqué comme règle de vie, et je pense tous les parents, hein, ont expliqué qu'on ne tapait pas sur quelqu'un d'autre. Certes, tous les enfants ont entendu ça. Donc, vous voyez déjà l'idée de dire « oui, quand tu tapes, ça lui fait mal ». C'est déjà une première pierre, parce qu'on lui dit « les conséquences de ton action vont avoir un effet sur l'autre qui est désagréable ». L'autre va se sentir mal, l'autre va se sentir blessé, vexé, soit humilié, soit vraiment il va perdre la confiance ou l'amitié que tu avais installée. Donc là, ça commence à être des conséquences un peu plus précises. Au-delà de ça, si vous avez écouté l'épisode 5, je vous disais que c'est quand même plus facile pour un enfant d'avoir une règle en énoncé positif. Parce que on ne tape pas, il entend taper. Et après, il doit enchaîner avec la négation de « on ne tape pas ». Donc, on peut expliquer très bien à un enfant tout ce qui n'est pas attendu de lui, mais on peut aussi lui expliquer, au-delà des conséquences de son acte, quel est le comportement qu'on attend de lui finalement. Quand je reprends l'exemple du couloir de tout à l'heure, il est plus intéressant de dire « quand je me déplace dans le couloir, je pose mes pieds et je marche ». Comme ça, l'enfant sait précisément quel est le comportement attendu. Et la deuxième étape de la règle peut être d'expliquer « quand je marche dans le couloir, il y a moins de glissades, il y a moins d'accidents, il y a moins de risques de se blesser, de se cogner, de se rentrer dedans, de se faire mal ». Donc, une fois de plus, l'énoncé étant positif, on explique la conséquence de cette règle et on peut même expliquer, si on ne respecte pas cette règle, qu'est-ce qu'il pourrait arriver à moi ou à l'autre qui serait plutôt fâcheux, plutôt désagréable. Et là, quand on déplie tout l'éventail d'une règle de vie, vous voyez que ça va être très très long de faire ça pour toutes les règles de vie de la classe. Et que les enseignants qui, en débutant, pensent qu'installer les règles de vie, ça va se faire en 2 jours sur une demi-heure de conseil de classe ou d'atelier de langage ou d'atelier de parole. Et moi-même, je l'ai fait quand j'ai débuté en me disant « oui, bon, on va faire une petite séance règles de vie, allez, j'en mets 3 dans la semaine et puis ça devrait être bon ». En fait, si on veut que la règle de vie soit vraiment ressentie, incarnée, comprise, il va falloir revenir dessus très souvent en s'appuyant justement par ce qui va être vécu par le groupe. J'ai une collègue qui prenait les photos dans la cour du comportement des enfants sur le toboggan, par exemple, ou qui se mettaient en danger en traversant la barre de sécurité. Donc, elle prenait en photo les actions qui n'étaient pas dans les règles de vie. Et ensuite, en classe, elle les affichait au tableau et elle créait un débat en disant pourquoi cette action ne serait pas autorisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous faites ça, qu'est-ce qu'il va arriver? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre comportement plus approprié pour éviter ces conséquences-là? Et là, il y a un balancier vraiment dans la tête de l'enfant de se dire « Ah oui, si je fais ça, il y a tel et tel risque. À la fois, ça me ferait plaisir de le faire. Donc, ensuite, dans une autre séance, on peut trouver des comportements qui nourriraient cette envie-là. Si c'est une envie de passer par-dessus la barre de sécurité, eh ben, on va créer une séance escalade pour qu'ils puissent, à ce moment-là de la journée, vraiment assouvir leurs besoins de mouvement, de se dépasser, de challenge et tout ça. Comme ça, ça concerne plusieurs rayures de leur arc-en-ciel de besoin. Déjà la rouge, la jaune en identité, et puis la rayure de défi et de challenge, la rayure violette. Et de se dire, pour chaque règle, l'idéal, ce serait que l'enfant, que ce soit un élève ou l'enfant de la maison, puisse visualiser, quand je respecte cette règle, j'ai telle et telle conséquence qui sont plutôt agréables, et quand je ne respecte pas cette règle, il pourrait arriver telle ou telle conséquence qui ne soit pas très agréable. Donc là, j'étais sur des règles de vie vraiment classiques, que ce soit à la maison ou à l'école. Et puis, vous allez tomber sur des règles qui vont être un peu plus compliquées à justifier. Des règles qui pourraient glisser gentiment vers le domaine un peu de soumission, le domaine un peu de zone totalitaire, du genre « j'ai décidé que tu allais faire ça, tu le fais maintenant, c'est comme ça, on ne discute pas ». Alors peut-être que vous avez déjà un exemple qui vous arrive, et de savoir à ce moment-là, quand vous donnez cette règle-là à votre enfant ou à votre classe, est-ce qu'il y aurait une exception ? Est-ce que c'est valable dans toutes les situations? Est-ce qu'il y a des conséquences si un des élèves ou un de vos enfants dépasse cette règle? Par exemple, si vous décidez qu'on doit se coucher à 20h15, c'est un choix. Ça peut être porté par une valeur que chacun se repose. Ça peut être porté par une intention qu'à 20h15, vous passiez du temps en couple, par exemple. Donc, je ne juge pas du tout l'idée de base. Je dis juste, cette règle, on se couche à 20h15, Est-ce qu'elle va avoir des exceptions? Est-ce que quand les cousins seront là, elle sera possible? Donc, elle ne sera pas complètement possible. Au réveillon, elle ne sera pas possible non plus. Quand vous êtes en vacances, elle sera moins possible parce qu'il y a peut-être un spectacle ou un tournoi ou une activité qui va vous donner envie de repousser l'heure du coucher. Donc finalement, quand on explique pour la première fois une règle à un enfant, on peut lui dire « Écoute, là, je sens que tu commences à être fatigué. Demain matin, tu vas avoir école. J'aimerais bien qu'on aille se coucher. Comme ça, tu seras en pleine forme demain matin. Et en plus, bah regarde, 20h15, en général, c'est l'heure où on va se coucher. » Et finalement, c'est moins dominateur, c'est moins totalitaire d'expliquer dans quelles circonstances on a pris cette décision, quels sont les choix qui nous ont poussés à décider ça pour le bien de l'enfant, qui est un petit peu différent de certaines expressions qu'on a peut-être vécues enfant, qui étaient « c'est moi qui décide, c'est moi le parent » ou « c'est moi qui décide, c'est moi la maîtresse », qui nous remettrait à un système de pouvoir en fait. J'ai le pouvoir, tu te tais. J'ai le pouvoir, tu appliques ce que je te dis. Donc il y a des fois où c'est pas négociable, quand ça touche vraiment à la sécurité, quand vous êtes sur le trottoir et qu'il y a de la circulation, quand vous êtes devant quelque chose de grave, un train qui passe ou une cheminée ou tout ça, vous n'allez pas expliquer toutes les conditions de la règle. Maintenant, quand l'émotion n'est pas trop forte et quand vous avez du temps devant vous, il serait utile pour plus tard, en fait, de comprendre qu'une règle n'est pas absolue. Il y a très peu de règles qui sont absolues et il y a très peu de règles qui sont incontournables matériellement et physiquement. Parce que si vous reprenez même une partie des gens qui ont été condamnés par la justice, à un moment, ils connaissaient très bien la loi. Ils connaissaient très bien qu'il ne fallait pas le faire, mais une partie d'eux a décidé que c'était plus utile pour eux de faire cette action que de ne pas la faire. À un moment, ils ont été poussés. Alors, il y a plein de solutions, il y a plein d'explications, mais ça veut dire que même en connaissant très bien la loi, même en connaissant très bien la règle, si ça ne vient pas d'un équilibre intérieur, de nos valeurs profondes et d'un alignement entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on réfléchit et ce qu'on dit, finalement, le règlement qui n'a pas été validé intérieurement aura beaucoup moins de poids qu'un règlement qu'on aurait intériorisé parce qu'on le trouve juste, parce qu'on le trouve approprié et qu'on trouve qu'il a des conséquences plus saines à la fois sur notre santé, notre protection, et à la fois sur les gens qu'on aime autour de nous. Donc l'idée qu'une règle de vie pourrait servir à la fois à mes besoins et à la fois aux besoins du groupe, il y a certains enfants qui le comprennent très vite. Quand j'avais les grandes sections, il y a des petites filles qui me donnaient des règles que je n'avais jamais entendues, qu'elles avaient trouvées toutes seules, en se disant oui, mais là, si tu prends toutes les parts de gâteau qui restent, on ne pourra pas en donner au maître de la classe d'à côté. Donc, elle avait décidé que chaque enfant devait prendre une seule part du gâteau pour qu'il en reste, pour en donner à la personne d'à côté. Et ça avait beaucoup plus de sens de le présenter comme ça, en disant, si je fais cette action-là, la conséquence ne me permettra pas de faire une autre action. Donc c'est un cheminement de pensée qui n'est pas facile. Certains de vos enfants, certains de vos élèves n'en sont peut-être pas au stade de réflexion qui permet de voir que l'action qu'on n'a pas encore faite aura des conséquences réelles, parce que des fois c'est en faisant qu'on prend conscience des conséquences de nos actions, mais avec la verbalisation de chaque petite action que l'enfant fait, il commence à identifier que l'action qu'il fait maintenant aura les mêmes conséquences. Conséquences, que les mêmes causes donnent toujours les mêmes effets, que s'il marche trop vite avec son verre d'eau dans le jardin, arrivé au bout du jardin, son verre d'eau sera peut-être un peu renversé. Et c'est en ça que la verbalisation, comme je vous dis souvent depuis l'épisode 12 et puis même glissé par-ci par-là, permet à l'enfant de relier des informations entre elles, des informations qui sont scientifique, logique, mais aussi des informations liées à l'intelligence émotionnelle. Quand on verbalise que là, tu as couru, tu as bousculé la petite fille qui était à côté de toi et que quand tu l'as bousculée, elle a eu peur, elle a eu mal, elle a failli tomber. L'enfant qui entend juste ça est peut-être plus à même de développer son empathie plutôt qu'un enfant à qui on dirait « Mais arrête de courir, tu lui as fait mal !» Point. Le rendre conscient des conséquences de son action lui permet de réfléchir à une autre manière de le faire la prochaine fois. Lui permet de réfléchir aux conséquences de ses actions. Donc, ne vous lancez peut-être pas dans toutes les règles de vie à retravailler avec votre classe ou toutes les règles de vie à retravailler avec vos enfants, mais prenez-en peut-être une et voyez dans quel cas cette règle de vie, elle est vraiment importante pour vous, pour vos valeurs, ou si cette règle de vie, elle est finalement un peu floue et arbitraire parce que bah, des fois le lundi, vous ne pouvez pas l'appliquer parce que le lundi, vous n'avez pas votre ATSEM ou alors que telle ou telle règle, bah, finalement, on avait dit qu'on ferait ça le jeudi. Ben non, le jeudi, on ne peut pas parce que ce jour-là, ben, c'est l'élémentaire qui a pris la salle. Donc, on pose des règles, mais finalement, on n'est pas complètement maître de certaines possibilités. Donc, c'est un peu la différence entre une règle et une loi. Ça, c'est compliqué en maternelle de comprendre. Mais petit à petit, les enfants qui vont grandir vont se rendre compte que les lois sont contraignantes pour tous les adultes, hein, notamment les lois du code de la route, notamment les lois administratives. Quand ils vous voient remplir la feuille d'impôt, quand ils vous voient payer les courses, ils comprennent bien qu'on doit payer les objets qu'on veut acheter. Toutes ces lois-là, si vous les verbalisez, créent un contexte qui leur permet de comprendre qu'on n'est pas libre de tout, mais que quand on connaît les règles, on a une certaine liberté au milieu du cadre de toutes ces règles. On a une certaine liberté au niveau des décisions qui respectent la sécurité, la protection et le bien-être des autres. Donc on est sur des domaines très différents, hein. On est à la fois sur du langage de compréhension, on est à la fois sur du collectif, on est à la fois sur de l'individuel et on est aussi sur une certaine puissance de l'autonomie. Parce que l'enfant qui est au début très égocentré par son développement lui-même, parce que déjà il apprend à se connaître lui, ne peut pas comprendre des règles qui ne concerneraient que les autres. Il peut comprendre une règle qui le concerne lui s'il la ressent vraiment personnellement et s'il commence à comprendre les conséquences qu'elle aura sur le groupe ou sur sa sœur si on est en famille ou sur la voisine s'il est en train d'appuyer sur son klaxon tout l'après-midi dans le jardin et que la voisine était à côté. Vous lui expliquez « on arrête de klaxonner ». C'est une règle arbitraire, en fait. C'est une règle qu'il ne comprend pas. Par contre, si on lui met le klaxon à côté de son oreille, qu'on appuie 4 fois dessus et qu'on lui fait ressentir que ça fait quand même beaucoup de bruit dans les oreilles et que quand on l'entend beaucoup, c'est peut-être un peu fatigant. Lui, ça l'amuse beaucoup d'appuyer sur ce klaxon, mais peut-être qu'on pourrait faire une activité qui fait moins de bruit parce que la voisine est aussi dans son jardin. Et une fois de plus, de refaire ce balancier entre l'autre a des émotions et des sensations, moi j'ai des émotions et des sensations, toi, quand tu fais telle ou telle action, il y a des conséquences sur les autres, non pas pour que tu t'empêches de tout faire, mais que juste tu ouvres ton champ de conscience à l'effet de tes actions sur le reste du monde. Et ça permet comme ça, au jeune enfant, d'accepter l'altérité, d'accepter de se décentrer. Alors, il y a forcément des moments où il va transgresser la règle parce que ça nourrit son besoin d'autonomie et d'indépendance. Et peut-être qu'on fera un autre épisode là-dessus. Mais dans un premier temps, c'était vraiment questionner les règles que vous posez d'office à votre classe. Est-ce qu'elles sont vraiment absolues? Est-ce qu'elles sont vraiment indispensables à soutenir dès le début de l'année? Est-ce qu'elle pourrait intervenir un peu plus tard? Est-ce qu'elle met en jeu l'intégrité physique et intellectuelle ou affective des élèves? Donc, de prendre le temps de verbaliser, de faire comprendre, de faire ressentir aux élèves ou à vos enfants en famille pourquoi vous avez décidé de cette règle de vie, pourquoi c'est important pour vous, à quelle valeur ça renvoie. peut-être une valeur de justice, peut-être une valeur de sécurité, peut-être une valeur d'honnêteté. Parce que si vous expliquez juste à votre enfant « Non, mais le mensonge, c'est pas bien », c'est très flou, en fait, comme règle. Donc, tout ça peut s'expliciter d'une manière un peu plus en connexion avec ses besoins à lui, en connexion avec ce que vous, ça vous renvoie comme émotion. Quand un enfant transgresse une règle qu'on a posée, qu'on soit enseignant ou qu'on soit parent, on a un réflexe de se dire « Mais je lui ai déjà dit ça, mais c'est pas possible, il a recommencé, mais je lui ai déjà dit. » Donc on a une petite frustration de se dire « Je vais devoir réexpliquer, je vais devoir reprendre cette règle » parce que c'est dans le fonctionnement d'un enfant de voir si la limite est vraiment posée, de voir si la limite est stable, de voir si l'adulte va maintenir son avis sur cette question. Et comme parfois ça change d'une semaine sur l'autre, d'un adulte à l'autre, bah c'est l'occasion rêvée pour l'enfant de tester si cette règle, pour vous, elle est essentielle ou si c'est une règle un peu floue, un peu bancale. Et dans ce cas-là, il va se faire une joie de tester à quel point elle est bancale et à quel point les conditions sont des fois réunies ou des fois pas réunies. Et au point de nous faire tourner en bourrique bien souvent. Ça, c'est clair et net. J'ai beaucoup de mamans qui m'ont témoigné que leur enfant répétait la même chose jusqu'à ce qu'elle s'énerve. Et donc, je leur proposais à chaque fois de peut-être le verbaliser sous un autre angle ou de peut-être lui faire vivre la situation autrement. Peut-être que renverser la vapeur en le mettant en situation de subir les effets de cette consigne-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer des situations où vous trouvez que votre règle est justifiée, mais où votre enfant cherche à la démonter, cette règle, à la dépasser, à la transgresser, pour qu'on puisse étudier ça ensemble, dans quelle mesure cette règle, elle peut être redéfinie ou présentée à l'enfant sur un autre canal de compréhension, peut-être sur un canal sensoriel, peut-être sur un canal à partir d'un support, peut-être d'un livre ou d'une chanson, mais de telle façon que la règle vienne de manière cohérente avec sa construction du monde et qu'il puisse ensuite se l'approprier. Et vous me connaissez, je vais souvent sur le long terme hein, avec les jeunes enfants. Plus les règles qu'ils vont intégrer tôt et qui auront du sens vont se multiplier à l'intérieur de lui, plus il aura une grille de lecture de l'avenir et de sa vie personnelle d'adulte organisée en fait. Si les règles sont incohérentes en fonction de l'adulte qui va croiser dans sa vie, si des fois on fait comme ci, on fait comme ça, on fait comme ci, on fait comme ça, à un moment, il aura du mal à trouver sa propre version de la vie, sa propre échelle de valeur, alors que si la règle est vraiment très bien explicitée, il pourra s'accorder le choix de la suivre parce qu'il l'aura comprise ou de la refuser parce qu'il ne la trouvera pas justifiée. Et dans l'histoire, il y a eu quand même des lois qui ont été édictées par des chefs d'État qui ont été volontairement refusées par certains groupes, par certains résistants, parce qu'à un moment, ça ne s'accordait pas avec leurs propres valeurs, parce qu'ils voulaient dépendre d'autres règles et d'autres lois. Donc, observons le côté arbitraire de certaines lois, observons que certaines décisions ne mettent pas en valeur l'autonomie et l'indépendance de l'enfant, mais c'est valable aussi pour l'adulte, parce qu'en préparant cet épisode, j'ai repensé au protocole sanitaire qu'on nous a imposé l'année dernière, enfin même l'année d'avant, hein, presque, parce qu'il y a eu beaucoup de protocoles sanitaires, et je me souviens notamment un des premiers écrits qu'on nous a transmis par voie hiérarchique, était d'interdire aux enfants de maternelle de se toucher dans la classe. Et là, j'ai lu cette phrase, je me suis levée d'un coup en pestant, en disant « Mais c'est pas possible de ne pas savoir le fonctionnement d'un enfant de maternelle. Ce n'est pas possible. » Dans le texte, était écrit très clairement « Aucun contact ne doit être effectué entre les élèves de la classe. » Donc, ce n'était pas une loi votée hein, par l'Assemblée ou par l'État, c'était une directive qu'on a reçue. Mais je vous présente cet exemple-là parce que à un moment donné, on ne peut pas appliquer telles quelles des lois qui ne nous paraissent pas cohérentes. Donc je ne dis pas de se rebeller avec toutes les lois, mais vraiment voir ce qu'elles questionnent en nous, au niveau de notre autonomie intellectuelle aussi, parce que pour le coup, je pense être capable de maintenir une certaine sécurité sanitaire, même si des enfants se touchent entre eux. Donc je comprends les politiciens qui doivent édicter des lois qui, dans l'absolu, protégeraient le maximum de personnes, mais certaines lois sont complètement incohérentes entre elles et mènent à des situations complètement ubuesques, aussi bien dans l'administration, hein. Je pense que vous avez tous vécu une situation complètement improbable, du genre Astérix qui demande le laissez-passer à 39 et qui n'arrivera pas au bout de sa tâche, et dans des situations où on est quand même sur de l'humain et où on a des émotions en jeu et où on ne peut pas empêcher certaines situations d'arriver à un moment donné parce que c'est dans le fonctionnement interne de laisser des enfants échanger entre eux, se parler et se toucher. Bon, je reviens à mes moutons. Sur le côté négociation, je laisse à votre appréciation l'idée qu'une règle peut être négociée. C'est toujours délicat, on a fait plusieurs thèmes là-dessus sur Clubhouse, de savoir à quel point on peut laisser négocier l'enfant. Mais je pense qu'à un certain âge, à partir de 6-7 ans, on peut quand même essayer d'installer un certain atelier de langage avec lui en lui demandant de questionner un peu les intérêts de cette règle et de voir qu'il a aussi à y gagner à respecter les règles qui ont été décidées par les parents. Alors si possible les deux en harmonie quand même plutôt cohérente, hein. C'est vrai que je vous en parlais un peu sur la cohérence, de se dire si la règle est pareille chez papa et la règle est pareille chez maman, c'est un peu plus simple, mais les configurations ne le permettent pas toujours. Donc dans l'idée de co-créer un peu cette règle, plutôt que de l'imposer de façon complètement descendante. Si cette règle me touche au niveau de mes valeurs, je peux aussi la transmettre à quelqu'un d'autre. Et ça, on le voit très vite dans la classe, quand il y a des enfants qui ont compris dans quelle mesure je proposais ces règles-là, elles étaient tout à fait capables, donc c'était en général plus les petites filles en début d'année, qui redisaient aux autres enfants « Mais non, on ne fait pas comme ça, parce que là, si tu fais ça, après, ça va faire ça. » Je pense notamment à la peinture, de bien expliquer que la peinture, c'était que sur le coin carrelé, sur le coin où il y avait le carrelage, parce que quand on emmenait la peinture ailleurs, ça laissait des traces partout et c'était bien plus compliqué à nettoyer. Donc pour elle, ça faisait du sens. Je repense à deux petites filles qui faisaient ça régulièrement. Ça faisait du sens de laisser le matériel de peinture sur le coin carrelage. Et quand un enfant emmenait son pinceau ou sa blouse ou son tablier dans un autre endroit de la classe, elles allaient le voir en leur réexpliquant non seulement la règle initiale, mais aussi parce que là, quand tu fais ça, après ça fait ça, et de redonner les conséquences pour bien montrer qu'elles avaient vraiment cheminé dans l'intérêt et dans la compréhension et dans la cohérence de cette règle initiale. Je vous ai parlé de reformuler la règle en affirmation positive, donc je ne reviens pas dessus. C'était dans l'épisode 5 et dans l'épisode 12 un petit peu aussi. Le ressenti vers l'empathie collective, je vous en ai parlé aussi. Notez quand même qu'avant 5 ans, certains ne sont pas prêts en maturité à arriver à se décentrer complètement. Et ils restent encore plutôt portés sur leurs propres besoins de satisfaire leurs plaisirs et leurs besoins, plutôt que se décentrer au point de vouloir faire plaisir à l'autre, parce que c'est un autre risque aussi de faire croire à l'enfant que l'autre passe avant soi. Hein, je ne vous emmène pas sur cette pente-là aujourd'hui, mais notez-le parce qu'on ne peut pas non plus appliquer des règles que pour les autres. Il faut que ça ait un sens pour nous-mêmes. Parce que sinon, on s'oublie complètement dans le « fait plaisir aux autres ». Et c'est en ça que certaines règles pourraient être arbitraires. Donc, je vous invite vraiment à écouter. La prochaine fois que vous allez au parc, la prochaine fois que vous allez dans un lieu où il y a beaucoup de parents, toutes les règles qui sont énoncées à l'oral, est-ce qu'elles sont contournables? Est-ce qu'elles sont essentielles? Est-ce qu'elles ont des exceptions? Est-ce qu'elles ont du sens? Est-ce que l'enfant peut la comprendre, cette règle? Et peut-être vous, quand vous allez donner votre prochaine règle à votre enfant, et moi ça m'arrive encore, hein, quand je donne ma règle à Siana, la petite, de me dire, oui, enfin bon, je dis ça, mais en fait, cette règle, elle pourrait avoir des exceptions, elle pourrait avoir, aujourd'hui elle va s'appliquer, mais c'est pas une règle fondamentale, c'est pas une règle si essentielle que ça. Donc voilà. Prenons conscience, hein, juste de monter un peu en hauteur pour voir si toutes les règles auxquelles on tient sont vraiment des combats importants pour nous, s'il y en a certaines qu'on pourrait lâcher pour relâcher la pression et pour avoir un peu plus de sérénité, et par contre, quelles sont les fondamentales qu'on va garder parce qu'elles ont vraiment une cohérence avec nos valeurs, qu'elles sont un fondement de notre éducation ou de notre classe, hein, si on a un groupe d'élèves. Et j'avais noté aussi que cette compréhension des règles et des lois mettait aussi une première pierre dans le développement de l'esprit critique, hein, des enfants. Parce que on en parlait un peu sur les ateliers philosophie, de se dire, c'est pas parce que on nous a donné toutes ces règles-là qu'à un moment donné, on ne pourra pas se dire en fait, cette règle, j'en veux pas, cette règle, je ne suis pas d'accord avec elle. Et peut-être que dans notre travail, ça nous aidera, ou peut-être que dans une relation un peu toxique, ça nous aidera de se dire, je vais pas être tout le temps gentille, je vais pas être tout le temps soumise à telle ou telle règle si je ne pense pas qu'elle est bonne pour moi. Donc, de se recentrer sur ce qu'on en pense, sur un certain esprit critique, de ne pas tout accepter juste parce que c'est une autorité qui nous le demande, peut être important comme clé d'autonomie et comme clé vraiment de donner du sens à notre propre parcours de vie, à notre propre puissance intérieure, et de voir vers quoi on veut avancer pour que ce soit vraiment en lien avec une règle interne aussi bien qu'une règle externe. Je relis les petites notes qui sont arrivées toutes dans le désordre, comme d'habitude. Ah oui, j'ai mis, et je vous en parle souvent sur Clubhouse, que quand votre règle elle est vraiment importante pour vous et fondamentale. En fait, vous dégagez une certaine vibration quand vous la donnez à l'enfant qui sent que c'est quelque chose qui, pour vous, est très important. Ça veut dire que les règles que vous avez vraiment décidées sur la durée, sur un événement qui s'est passé en vous disant « Ah non, vu comment ça s'est passé le week-end dernier, là, la prochaine fois, je vais annoncer la couleur très très très, très tôt. » Et je donnerai la consigne de façon beaucoup plus claire la prochaine fois qu'on fera telle ou telle activité. Et au moment où vous allez redonner cette règle ou cette consigne, vous allez tellement l'incarner, vous allez tellement la faire vibrer dans votre voix, que l'enfant en face, non pas par soumission, mais par vraiment connexion avec vous, va comprendre que cette règle, elle a du sens non seulement pour vous, l'adulte, mais aussi pour lui, enfant, et que peut-être plus tard, quand il sera grand, il y réfléchira, mais là, en tout cas, ce n'est pas négociable. Donc, je voulais apporter ce petit point de vibration dans la règle de vie qui, quand on lit un règlement sans s'intéresser et sans le ressentir, il aura beaucoup, beaucoup moins de poids. Et je me revois débutante à reprendre les règles de vie d'une autre collègue. Ça n'a aucun sens, en fait, d'afficher les règles de vie dans la classe sans les avoir travaillées, sans les avoir rédigées nous-mêmes, sans les avoir écrites devant les enfants en dictée à l'adulte. Et vous pouvez le faire aussi à la maison, hein. Peut-être choisir 3 règles de vie qui vous paraissent importantes et les écrire avec l'enfant, peut-être coller des images qui vont avec, peut-être les afficher derrière la porte du garage ou un lieu qui pourrait vraiment créer une certaine charte, en fait, une certaine notion de conduite collective qui fait partie de toutes les communautés, de toutes les associations. Quand il y a un groupe qui vit ensemble, qui travaille ensemble, il y a quelque part des conventions collectives qui s'appliquent pour le bien de tout le monde. Voilà, je vous ai donné beaucoup d'informations, j'ai encore duré beaucoup plus longtemps que je ne pensais. En tout cas, cherchez vraiment une certaine cohérence entre vos actions, vos paroles et vos pensées. Ça va vous alléger vraiment en charge mentale, plutôt que de réfléchir à chaque fois à pourquoi j'ai dit cette règle-là, est-ce que vraiment cette règle-là, elle a des effets sur la famille ou pas. Donc cherchez la congruence entre ce que vous ressentez et ce que vous dites, ce que vous vivez à l'intérieur et à l'extérieur, pour que l'enfant ne sente pas une certaine dissonance entre ce que vous dites et ce que vous incarnez. Voilà. plein de petites pistes à réfléchir, que vous soyez professionnel de la petite enfance ou parent. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à le relayer, à lui mettre une note sur Apple Podcasts par exemple. Et puis, on reparlera évidemment des règles de vie et de comment poser des limites aux enfants dans la famille, dans le cercle des parents qui se prépare. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre le site lppzen.com ou à envoyer un petit message sur Instagram et je vous donnerai toutes les informations. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.